RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, les 17h47, bonsoir, c'est avec vous, Liana Colombo.
L'ordre public est rétabli, c'est ce qu'a annoncé ce midi sur notre antenne le haut-commissaire Louis Lefranc. 8 mois après le début des violences insurrectionnelles, il était notre invité dans le magazine Transparence. La délégation unie Palika prendra part aux discussions qui doivent s'ouvrir dans quelques jours à Paris. Une invitation lancée par le Premier ministre François Bayrou. Quel temps fera-t-il ce week-end? Avec la possible arrivée d'une dépression tropicale sur le territoire, nous verrons qui de la crème solaire ou du parapluie sera votre allié. Le gouvernement calédonien souhaite réduire de 70% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Un objectif atteignable notamment grâce aux bus électriques dont le premier était inauguré ce matin. Et en fin de journal, nous ferons comme d'habitude un tour d'horizon des événements festifs et sportifs prévus ce week-end. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. L'ordre public est vraiment rétabli et la situation est totalement sous contrôle. C'est ce que déclare le haut-commissaire Louis Lefranc. Il était l'invité d'Elisabeth Noir dans le premier magazine Transparence de l'année pour revenir sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie. Jean-François Baudin.
8 mois après le début des violences insurrectionnelles, l'ordre public est rétabli, affirme en effet le haut-commissaire, qui signale seulement quelques lieux de résistance sporadique, essentiellement dans les quartiers nord de Nouméa. Des secteurs dans lesquels il faut une attention particulière et une pression des forces de l'ordre qui d'ailleurs multiplient les patrouilles. Louis Lefranc qui évoque les effectifs conséquents en forces de l'ordre avec 500 gendarmes dans les brigades, mais aussi 1400 gendarmes mobiles.
C'est un effectif qui est important, qui est comparable à celui qui avait été déployé, même supérieur pour les référendums, enfin, en tous les cas qui est très supérieur à celui dont je disposais le 13 mai dernier. J'ai malheureusement pas assez d'effectifs. Donc là, on en a 1400, 20 escadrons avec ça. On tient le choc. Allez, 48 à 72 heures sur le Grand Nouméa. Et si ça partait sous la forme d'émeutes comparables à celles qu'on a pu connaître et que, dont vous vous rappelez tous, eh bien, le renforcement, on l'aura dans les 72 heures. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, je lui en ai parlé, et je vous garantis que c'est comme ça que ça se passera, si tant est que ce que l'on a connu le 13 mai dernier devait se reproduire.
Et il y a aussi 36 gendarmes du GIGN qui pourront également être renforcés, souligne le haut-commissaire, ainsi qu'une cinquantaine de personnels de renfort en police judiciaire. Au total, cela représente quelque 2000 gendarmes présents en Calédonie, ce qui, dit-il, est au moins 4 ou 5 fois plus que ce qu'il y a dans les territoires les plus compliqués en métropole. Et aux forces de gendarmerie s'ajoutent bien sûr les effectifs de police.
Il y a eu des compagnies CRS, il y a aussi un effectif qui est loin d'être négligeable, qui est à peu près comparable à celui des gendarmes dans les brigades territoriales. On a 550 policiers actifs sur Nouméa qui organisent des patrouilles. On a environ 20 patrouilles qui se déploient sur le terrain jour et nuit. Je ne vous ai pas parlé des patrouilles gendarmerie, on en a 180 sur le territoire global de la Nouvelle-Calédonie, dont les 3/4 sont sur le Grand Nouméa. Donc vous avez sur le Grand Nouméa, qui est la zone où les émeutes ont été les plus violentes, où les affrontements ont été les plus longs, les plus durs, et où il y a eu les destructions, on a environ, tous les jours, 200 patrouilles qui sont faites par ces escadrons de gendarmerie mobile, dont les 3/4 sont déployés dans le Grand Nouméa, et par les effectifs de police de la DTPN.
Le haut-commissaire annonce qu'une cartographie opérationnelle de la délinquance a été mise en place pour déployer les effectifs quand des incidents sont signalés. Cela permet une adéquation des moyens avec la réalité de la délinquance et cela a abouti à une forte diminution des délits sur le territoire.
Vous imaginez 200 patrouilles jour et nuit sur le territoire calédonien, mais dont les 3/4 sont sur le Grand Nouméa. Forcément, ça porte ses fruits. Vous savez, les gendarmes mobiles ne passent pas leur journée dans les hôtels, même si les hôteliers sont plutôt satisfaits de voir ces gendarmes mobiles chez eux. Ils sont là pour travailler. Et si la situation devait de nouveau se tendre, eh bien, on mettra en place les bonnes vieilles méthodes sur le plan tactique opérationnel, d'emploi des forces mobiles contre les émeutiers, comme on l'a fait, et on ira cette fois beaucoup plus vite. Et pour ce qui me concerne, je demanderai à ce que les forces d'intervention spécialisées de la gendarmerie nationale soient beaucoup plus systématiquement engagées pour éviter que les gendarmes mobiles soient victimes des tirs des émeutiers.
Et pour qualifier ce dispositif important de force de l'ordre, le haut-commissaire exprime la fermeté de l'État et il parle de mesures de vigilance active.
Qui s'est passé le 13 mai, les semaines et les mois qui ont suivi, on en a tous tiré des enseignements, c'est-à-dire de notre côté, du côté de l'État, des forces de sécurité intérieure, du côté du haut-commissaire. et de ses collaborateurs et collaboratrices. Nous, on est dans une situation, là, aujourd'hui, où on est prêt à réagir à tout moment, à engager les escadrons de gendarmerie mobile à tout moment, là où il le faut et quand il le faut. Si j'ai demandé à ce que ces 20 escadrons nous soient maintenus et avoir des renforcements, si tant est que ce soit nécessaire, au cas où, malheureusement, ça pourrait se reproduire, eh bien, j'aurai ces renforcements. Donc, c'est une posture de vigilance, mais de vigilance active.
Le haut-commissaire interrogé sur la situation à Saint-Louis où le dispositif des verrous a été assoupli. Il précise que 300 gendarmes sont présents jour et nuit sur la RP1 et que l'objectif c'est une réouverture complète de la route avant la rentrée scolaire. À ce sujet, on vient d'apprendre à l'instant que le haut-commissaire a annoncé donc que la route serait totalement ouverte au niveau de la tribu de Saint-Louis dès lundi, le 10 février 2025. La tribu de Saint-Louis qui reste toutefois problématique et Louis Lefranc indique que 45 personnes originaires de la tribu sont actuellement au camp Est, mais que des solutions sont toujours recherchées.
Il y a un travail qui est fait, je ne vais pas non plus jeter totalement la pierre aux autorités coutumières locales, il y a un travail quotidien qui est fait par la direction de mon cabinet, par le général commandant la gendarmerie, parce qu'il mouille la chemise pour rencontrer ces autorités coutumières de manière régulière. Il y en a qui coopèrent, il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, toujours garder le versant positif de l'Everest. Merci à ceux qui coopèrent et qui font en sorte que la situation se rétablisse progressivement dans cette tribu. Parce que moi, je reste une fermeté constante. Je suis très déterminé. Et si jamais ça devait repartir dans le mauvais sens, je ferai intervenir, je l'ai déjà dit, les forces d'intervention spécialisées de la gendarmerie nationale, s'il le faut. Vous savez, il y a quelques jours de cela, un des individus impliqués dans l'affaire de l'assassinat du jeune gendarme Molinari, en deuxième quinzaine de mai, a été interpellé. Les gendarmes qui ont procédé à cette interpellation étaient ceux du GIGN. Ils se sont repliés avec un véhicule de l'avant blindé. Il y a eu 3 tirs qui ont été effectués contre ce véhicule. Moi, je dis à ceux qui l'ont fait, on va les interpeller et qu'ils ne s'avisent pas de recommencer. Je les mets en garde. Moi, je n'ai pas pour habitude, quand je dis quelque chose, ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, les forces d'intervention de la gendarmerie nationale interviendront autant de fois que nécessaire. Je n'exposerai pas les gendarmes mobiles à Saint-Louis.
Le haut-commissaire est également revenu sur la levée nécessaire du couvre-feu qui s'accompagne du maintien d'un certain nombre de restrictions, dont l'interdiction de rassemblement et de manifestation dans le Grand Nouméa. Il a aussi été interrogé sur l'activité judiciaire et il précise que depuis le 13 mai, il y a eu 4000 interpellations, plus de 3000 gardes à vue et plus de 159 incarcérations fermes. 76 détenus ont aussi été transférés dans des prisons métropolitaines. Mais que sont devenus les 10 à 12 000 insurgés?
Ils sont toujours là. Alors j'espère que tout le travail à la fois de la police, de la gendarmerie et de la justice va leur permettre un retour à la raison. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, virgule, mais nous aussi. D'accord ? Nous, on est là. Et s'ils ont bien entendu ce que je vous ai dit, si jamais ça devait se détériorer, la situation actuelle, où le calme est rétabli, l'ordre est rétabli, eh bien, ces forces qui font aujourd'hui des patrouilles rentreront dans une logique de maintien de l'ordre et les renforcements, je les demanderai immédiatement. Et ces renforcements feront que le volume de force, d'intervention, de sécurité intérieure, de la police, de la gendarmerie nationale sera comparable à ce qui a été déployé le 24 septembre dernier. J'ai demandé aussi au ministre de l'Intérieur à ce que des forces militaires de sécurité civile viennent en appui.
Et nous sommes fermes et constants dans la fermeté, ajoute le haut-commissaire Louis Lefranc dans cette interview disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Ce magazine Transparence sera rediffusé dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45.
Et je rappelle que le haut-commissaire Louis Lefranc a annoncé il y a quelques minutes que la route serait totalement ouverte au niveau de Saint-Louis dès le lundi 10 février 2025. La délégation unie PALICA s'apprête à se rendre à Paris à l'invitation du Premier ministre pour prendre part aux discussions qui doivent s'ouvrir dans quelques jours. Elle est composée de Jean-Pierre Djaïwé, qui sera chef de la délégation, d'Adolphe Digoué et de Victor Tutugoro, Jean-François.
Les membres de cette délégation se sont entretenus en visioconférence avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, il y a 10 jours, et ils ont reçu la lettre que leur a adressée le Premier ministre François Bayrou. Ils ont donc accepté de se rendre à Paris, nous a dit Jean-Pierre Djaïwé.
Est pour lui prioritaire. Ensuite, il souhaite que le processus politique reprenne et que le dialogue soit renoué entre partenaires calédoniens. Je pense que ça aussi, c'est important. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous l'avons dit à nos amis calédoniens, non indépendantistes, que, ou si je m'en sers, lui dit, on veut que ce soit un représentant de l'État, que ce soit le même ministre, que ce soit le ministre chargé du dossier calédonien qui relance les discussions. Et la rencontre à Paris doit aboutir à la définition d'une méthode, d'un calendrier et identifier les points qui doivent faire l'objet d'une négociation.
La délégation Unipalika s'inscrit en effet dans la volonté exprimée par le Premier ministre de trouver un accord avec les partenaires calédoniens le 31 mars au plus tard.
Oui, tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord pour qu'on aille discuter et lui parvenir à un accord dans la mesure du possible. Bah, il le dit lui-même, parce que si les discussions, parce que c'est d'abord des discussions bilatérales, là, et ensuite, en fonction des discussions bilatérales, il y aura des discussions trilatérales avec tout le monde autour de la table. C'est ce que nous souhaitons aussi, parce qu'il faut qu'on avance. Il faut négocier sur les points qui sont aujourd'hui des points durs, sur lesquels il y a des divergences. On a déjà eu des discussions entre nos partenaires calédoniens et avec l'État, bien sûr, et on sait les points sur lesquels il y a beaucoup de divergences. Donc c'est sur ces points-là feront l'objet des négociations à venir.
L'Unipalika, qui s'est mise en retrait du FLNKS, a préparé ce rendez-vous de son côté, mais Jean-Pierre Djaïoué affirme partager avec le Front le même point de départ pour ces discussions.
On est tous sur le point qui a été fait au congrès de Kaïmolo. On a dit, dans le cadre des discussions avec les partenaires calédoniens et avec l'État, on sait précisément les sujets sur lesquels il y a des points d'équilibre qui ont été trouvés, et on sait précisément également les points sur lesquels il y a des divergences majeures. Autre chose qui est importante qui a été dit par le ministre, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que le ministre a dit à un moment donné, il va falloir que l'État mette une proposition sur la table.
Pour l'instant, ce sont des discussions bilatérales qui vont s'ouvrir à Paris. Est-ce qu'éventuellement, si elles pouvaient déboucher sur une négociation plus large, vous seriez partant ou pour vous, il y a un retour nécessaire à Nouméa?
Oui, tout à fait. Nous, on est partant si on arrive à... Parce que le ministre le dit lui-même, si les discussions sont concluantes, il va lancer les négociations sur les points difficiles. Alors, est-ce qu'on va se faire à Paris si les discussions sont concluantes déjà dans cette première à Paris? Bien, est-ce que ça se fera un peu plus tard? Ben, il le dit lui-même. Il veut que les accords soient trouvés avant le 31 mars. Il sait que les discussions vont être difficiles, mais il dit que le fait de prendre trop de temps, ça risque d'avoir des conséquences sur les élections provinciales prochaines.
Jean-Pierre Djaïoué quitte le territoire ce soir pour se rendre à Paris et sera rejoint dans quelques jours par Adolphe Digoué et Victor Tutugoro.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, 71% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la chambre d'accusation de la Cour de cassation a eu raison de dépayser à Paris l'information judiciaire sur les émeutes du mois de mai. Ils sont 29 à penser qu'elle n'a pas eu raison. Et voici notre question du jour. François Bayrou a-t-il eu raison, selon vous, d'employer la formule submersion migratoire. Si vous pensez qu'il a eu raison d'employer cette formule, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
RRB, il est 18h.
L'actualité est sur le territoire. C'est aussi le chômage au cœur de toutes les discussions. Ce matin, une réunion avait lieu entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la CAFAT, et les partenaires sociaux, Léo Fichou.
Les membres du gouvernement, Christopher Gigès, chargé du travail et de l'emploi, et Thierry Santa, chargé lui du budget et des finances, ont effectivement reçu pendant plus d'une heure les partenaires sociaux accompagnés de représentants de la CAFAT. Ils ont pu faire un état des lieux de la situation des chômages partiels et de droits communs. En quelques chiffres, depuis la mise en place du chômage spécial exaction, 22 650 Calédoniens ont bénéficié du chômage partiel exaction et 1848 salariés ont bénéficié du chômage total exaction. Christopher Gigès et Thierry Santan ont joué la carte de la transparence avec les partenaires sociaux. Je vous propose d'écouter Christopher Gigès.
On avait vraiment un désir de transparence vis-à-vis des partenaires sociaux et vis-à-vis des Calédoniens sur la situation du chômage et du chômage partiel. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble. On va trouver des solutions comme on a fait ces derniers mois. On a travaillé avec l'État encore il y a quelques jours pour assurer le financement du chômage et du chômage partiel. Et on travaille avec les partenaires sociaux sur l'évolution des dispositifs. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est dans une logique vraiment de reprise de l'activité économique, d'un dialogue exigeant avec l'État. Et on sait que l'État sera à nos côtés et on l'espère bien pour financer les restes des collectivités, les dispositifs de chômage. On leur a demandé de travailler sur l'évolution du dispositif de chômage partiel et sur l'évolution possible du dispositif de chômage de droit commun, ainsi que les placements de salariés dans des offres d'emploi qui sont disponibles.
Et de nombreux partenaires sociaux étaient présents ce matin, dont notamment Christophe Coulson, président du syndicat UT-CFE-CGC. Il a jugé cet échange avec les membres du gouvernement plutôt positif.
Pour l'instant, oui, positif. Après... On a quand même beaucoup insisté sur la réactivité. Il ne fallait pas qu'on prenne des plans pour traiter tous ces sujets et il fallait se mettre au travail sur des discussions concernant principalement aujourd'hui les dispositifs de chômage, mais après, d'une manière plus large, travailler sur des propositions qui pourraient faire évoluer très rapidement le monde du travail et relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie.
Partenaires sociaux et les membres du gouvernement doivent se revoir dans les prochains jours pour avancer les discussions et mettre en place un partenariat.
Merci Léo Fichou. Il est 18h02, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et plus particulièrement quel temps est prévu ce week-end. A tout de suite.
Rentrée des classes, on a tous un peu la tête ailleurs et le budget pas au meilleur de sa forme. Alors imaginez, cette année, jusqu'au 16 février, Gémeaux vous propose un t-shirt ou un débardeur pour 10 francs. En effet, pour l'achat d'un short ou d'un bermuda en 4-12 ans, le t-shirt ou le débardeur est à 10 francs seulement.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Voir conditions en magasin sur article signalé dans la limite des stocks disponibles.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points conso plus. Et ce n'est pas tout, chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'InfoSoir, Léana Colombo.
Oui, et la météo qui s'annonce capricieuse ce week-end. Le spectre d'une dépression tropicale plane en effet au-dessus du territoire. Nous avons donc fait le point avec Météo France Nouvelle-Calédonie pour éclaircir les prévisions du week-end. Charlotte Coulson.
Oui, rassurez-vous, il n'y aura pas de dépression. Pour autant, le nord et la côte est risquent d'être en proie à de fortes pluies ce dimanche. C'est en effet un minimum dépressionnaire qui se forme actuellement au Vanuatu et pourrait descendre vers la Calédonie. C'est ce qu'explique Édouard Pellot, prévisionniste à Météo France.
Pour demain, ça devrait aller, pas grand-chose, quelques averses sur la façade est, là, les côtes exposées au vent. Par contre, ça se gâte pour dimanche en lien avec un minimum dépressionnaire qui actuellement est en train de se former dans le nord du Vanuatu. Et qui devrait, parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes, mais bon, qui devrait se diriger vers le sud et donc se rapprocher du territoire et apporter une dégradation du temps à partir de dimanche, donc, même si les prévisions le laissent encore un petit peu au nord du pays dimanche. Si c'est le scénario qu'on a choisi aujourd'hui qui se réalise, on aura beaucoup de pluie, donc essentiellement sur la façade est, comme souvent, et des vents qui devraient être limités à 45 nœuds en rafale, on va dire.
Et l'évolution de ce phénomène en dépression tropicale forte est pour l'instant exclue dans le scénario actuellement privilégié par les prévisionnistes. Une vigilance jaune forte pluie pourrait être déclarée dans les zones les plus exposées, à savoir les îles Loyauté et la côte Est.
Et notez toutefois qu'en raison des conditions météorologiques défavorables de la semaine prochaine, les rotations du Betticho des 3, 4 et 5 février sont annulées. À ce jour, la reprise des traversées reste incertaine et le programme sera réajusté en fonction de l'évolution de la météo des prochains jours. Tous les passagers impactés ont été informés par SMS ou par email. Également, la Sudil annonce une modification des horaires des trajets jusqu'à ce dimanche. En cause, un problème technique sur les moteurs du bateau. Les voyages prévus ce week-end ont dû être réadaptés, mais sont maintenus. Exceptionnellement, le service client sera disponible par téléphone demain matin de 7h à midi au 260 100 260 100. C'est un morceau de l'histoire sportive de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi d'un quartier de Nouméa qui va bientôt disparaître. À la suite des émeutes du mois de mai 2024, la salle François Anéoui de la Vallée du Tir va être déconstruite, Charlotte Coulson.
Construite pour accueillir les épreuves des Jeux du Pacifique de 2011 à Nouméa, la salle François Anéoui était devenue le symbole de l'entrée ou de la sortie de la ville. Son style architectural si particulier faisait de cette salle de sport un endroit unique en son genre, une salle qui va donc disparaître. Incendiée 31 fois lors de la période des émeutes, la salle François Anéoui a été fortement endommagée et la ville de Nouméa n'a pas d'autre choix que de déconstruire cette infrastructure. Alan Boufnèche est le directeur de la vie citoyenne éducative et sportive à la ville de Nouméa.
Le parti architectural qui avait été pris à l'époque, c'était de faire comme les demi-lunes américaines. Mmh. Et donc, c'est des arches en bois qui tiennent toute la structure. Et au pied de ces arches, les incendies ont grandement endommagé et fragilisé la structure. Au-delà de ça, la salle a été complètement saccagée. Hein, les vestiaires, les sanitaires, tout a été cassé. Toutes les portes, toutes les garde-corps des tribunes, les feux ont pris sous les tribunes aussi. Et donc, le béton a été fragilisé. On est, pour des raisons de sécurité, obligé de déconstruire cette salle.
Et la salle François Anéouy était une salle de sport, bien évidemment, mais pas seulement. Elle accueillait aussi, lors des cyclones, les populations, et notamment celles des squats, ne se sentant plus en sécurité. C'est donc un véritable outil au service des Calédoniens qui va disparaître. Un véritable gâchis pour Alan Bouffnèche, qui connaissait bien cette salle.
Ça fait mal parce que moi, ça fait 15 ans que je suis en mairie et je suis arrivé quand elle a commencé à être construite, cette salle. On l'a rendue le plus accessible possible. Hein. C'était ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Si on construit ces équipements-là, c'est pour le bien de tous. Elle était encore une fois utilisée 7 jours sur 7. On accueillait les clubs de futsal, de basket, de volley, de badminton, dans toutes les disciplines. Tout le monde pouvait venir pratiquer son sport dans de super conditions. Perdre cet outil-là, c'est perdre un peu l'âme sportif à Nouméa. Mais dans le sport, on ne baisse pas les bras et on continuera d'avancer. Mais c'est du gâchis.
Et la salle François Anéouy ne sera donc bientôt plus qu'une dalle de béton. Son démantèlement devrait commencer dans les prochaines semaines. La ville vient de lancer les appels d'offres pour sa déconstruction.
La transition énergétique se poursuit en Nouvelle-Calédonie avec le lancement officiel ce matin du premier bus électrique sur le territoire, Léo Fichou.
Et c'est une révolution technologique et environnementale pour le territoire qui s'inscrit dans le cadre du schéma pour la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Un schéma qui prévoit entre autres une réduction de 70% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Ce bus 100% électrique, c'est une initiative privée du groupe Arc-en-Ciel. Un bus qui servira au transport des employés de Prony Ressources entre Nouméa et Prony, donc, mais aussi en intra-site Agoro. Franck Monod est le directeur général adjoint d'Arc-en-Ciel.
C'est une acquisition que nous avons fait donc privée, hein. C'est beaucoup de spécificités, hein. Nous avons tenu compte de toutes les demandes de Prony Ressources. C'est un bus qui ne comporte que des places assises, qui a une climatisation suffisante. Donc l'autonomie lui permet de faire 330 km, il y a 80 km de trajet, donc c'est largement suffisant. Alors il y a une borne qui est sur le site, nous avons une borne bien sûr ici à Nouméa, et normalement c'est largement suffisant pour faire les recharges. À l'achat, hein, c'est un bus qui est quand même beaucoup plus onéreux qu'un bus thermique. Par contre, en entretien, c'est quasi nul, hein, il n'y a plus de révision, il n'y a plus de fluide sale, il n'y a plus de carburant, il y a beaucoup moins de pièces mécaniques, donc beaucoup moins de pièces d'usure. Et sur le long terme, ne serait-ce que grâce à la consommation diminuée par 3, eh ben l'investissement s'avère avantageux.
Ce bus 100% électrique est donc arrivé sur le territoire grâce à une initiative privée, comme je le disais, dans le cadre de la transition énergétique. Une initiative soutenue bien évidemment par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique, était d'ailleurs présent ce matin pour le premier essai de ce bus. Un bus qui a de nombreux avantages en termes de coûts déjà, comme le disait Franck Monod, général adjoint d'Arc-en-Ciel, mais pas que. Les détails de Jean-Christophe Rigoual, directeur adjoint de l'Agence calédonienne de l'énergie.
Des avantages à la fois au niveau de l'acoustique, mais aussi au niveau de la pollution, puisque quand on est derrière un bus électrique, on a zéro pollution, puisqu'il n'y a pas d'émission de CO2, il n'y a pas de bruit. Voilà, et donc c'est tous les avantages du bus qu'on va pouvoir enfin vérifier, notamment les économies aussi financières par rapport à la recharge, c'est-à-dire versus énergie thermique, essence gasoil versus énergie électrique. On est à peu près à 50% de moins de baisse d'émissions de CO2 entre le thermique et l'électrique. Parce que le bus électrique, ce qu'il faut voir aussi dans la ville, c'est l'acoustique. Le bus électrique, c'est pas de bruit. Tous les bus thermiques rejettent de la chaleur à travers leur circulation. Un bus électrique, non. Donc tout ça, c'est des avantages qu'il faut prendre en compte dans la ville de demain.
À noter que ce bus 100% électrique, c'est le premier en Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi le premier bus de la marque Iveco qui circule hors Europe.
En bref, ouverture de la pêche aux crabes et picots à partir de demain. En province sud comme dans le nord, il sera de nouveau autorisé de pêcher les crabes de palétuvier et les picots. Après 2 mois de pause, afin de respecter leur période de reproduction, c'est la fin du répit pour les crabes de palétuvier. À partir de demain, leur pêche, leur transport, leur commercialisation, leur vente et leur détention sont donc de nouveau possibles. Par contre, cette autorisation ne concerne pas les crabes mous, dont la taille est inférieure à 14 cm. Rappelons également que la pêche de picots rayés, dont la longueur totale est inférieure à 20 cm, est interdite pour tous. Ce délit pour non-respect est passif d'une amende de plus de 2 millions de francs. En bref, toujours, la Nouvelle-Calédonie renforce sa vigilance concernant la grippe aviaire après des signalements de cas en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Le gouvernement appelle les Calédoniens à signaler à la DAVAR tout événement anormal touchant des oiseaux. En parallèle, toute détention d'oiseaux, volailles ou autres doit être déclarée au CIVAP pour une meilleure protection et traçabilité. La grippe aviaire peut se transmettre de l'animal à l'homme. Des mesures de protection doivent donc être appliquées pour limiter les risques de propagation. Et cette dernière information, légère augmentation des prix du carburant pour le mois de février. L'essence augmentera légèrement. Le litre d'essence atteindra 161,60 francs, soit une hausse de 1,30 francs. Le gazole sera quant à lui affiché à 142,10 francs. Il sera donc en augmentation de 0,70 francs par litre. L'actualité est dans le Pacifique. Une semaine de deuil national en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays va rendre hommage à l'un des premiers ministres emblématiques du pays qui vient de disparaître. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sir Julius Chan s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Considéré comme l'un des pères fondateurs de la nation papoue, il en avait été son premier ministre des Finances et son second premier ministre après avoir succédé à Sir Michael Somare. Il avait à nouveau dirigé le pays d'août 1994 à mars 1997. Depuis 2007, Sir Julius était aussi gouverneur de la province insulaire de Nouvelle-Irlande où il est né. Annonçant son décès au Parlement, l'actuel chef de gouvernement, James Marape, a indiqué que le défunt, je cite, « était le père de notre économie moderne ». Il a également décrété une semaine de deuil national afin d'honorer sa mémoire. Des funérailles nationales lui seront accordées à une date qui n'a pas encore été fixée. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h14, seconde page de publicité dans ce journal avant de passer à nos programmes festifs et sports du week-end. À tout de suite.
Maman, papa, Kiabi prépare déjà la rentrée en mode pouvoir d'achat. Des t-shirts unis en 6 coloris à seulement 390 francs. Des shorts hyper confortables à 690 francs seulement. Stylé! C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. N'attendez plus, rendez-vous en magasin ou commandez sur kiabi.nc.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et on fait le point sur les sorties de la fin de semaine avec un large choix d'activités à faire seul ou en famille, Charlotte Coulson.
Et l'événement du week-end, c'est le Tropical Market au Quai Ferry. 36 artisans locaux exposeront leurs créations en bord de mer. Rendez-vous c'est samedi et dimanche de 9h à 17h. Non loin de là, c'est l'incontournable vide-grenier du centre-ville qui reprend ce dimanche. Comme d'habitude, près de 250 stands accueilleront les brocanteurs de 7h30 à 12h30 sur la place des Cocotiers. Et côté marché, toujours, c'est à l'occasion de la réouverture de la pêche aux crabes et picots que la mairie de Moindou organise son premier de l'année. Rendez-vous place du marché de 8h à midi ce dimanche pour découvrir un large choix de produits de la mer et de la terre.
Et puis les férus de nature trouveront leur compte ce week-end. De nombreuses sorties et aux parcs provinciaux sont organisées.
Avec tout d'abord un tout nouveau rendez-vous proposé par le parc provincial zoologique et forestier. Des visites guidées de la faune et la flore endémiques sont organisées ce samedi. l'occasion d'en apprendre plus sur la biodiversité locale. Rendez-vous donc ce samedi et les suivants de 10h à 11h30. L'entrée du parc est payante, mais la visite guidée, quant à elle, gratuite. Et pour avoir une chance d'apercevoir des cagous dans leur environnement naturel cette fois, le parc des Grandes Fougères organise lui aussi des visites guidées gratuites. Le rendez-vous est donné à 19h ce samedi. Attention, il vaut mieux prévoir de bonnes chaussures de marche et une lampe frontale. La réservation est obligatoire au 20 39 55, le 20 39 55. Et puis ce dimanche encore, ce sont les zones humides qui sont mises à l'honneur mondialement. Dès ce week-end et tout au long du mois de février, une exposition leur est dédiée au parc provincial de la Rivière Bleue.
Et enfin, on termine ce tour du week-end en musique avec le Ciné City qui organise une séance karaoké sur le film Wicked. Rendez-vous ce samedi à 17h15. En attendant, il est 18h17 et passons maintenant à l'agenda sport du week-end.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et vous l'avez bien compris, on va suivre du rugby dès demain matin, Léo Fichou, avec le coup d'envoi du tournoi des Six Nations.
Et c'est l'équipe de France qui jouera en ouverture de cette 26e édition du tournoi des Six Nations avec 6 équipes. À 7h15 pour nous demain matin, donc les Bleus, emmenés par leur capitaine Antoine Dupont, affronteront le Pays de Galles, bon dernier du tournoi l'an passé, avec 5 défaites en autant de rencontres. Dans la nuit de demain à dimanche, l'Écosse sera opposée à l'Italie. Et enfin, l'Irlande, double tenante du titre, recevra l'Angleterre qui, de son côté, n'a plus remporté le tournoi Destination depuis 5 ans. C'était en 2020.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
À l'international, toujours, l'équipe de France de handball tentera de décrocher une médaille de bronze au championnat du monde.
Les joueurs de Guillaume Gilles se sont inclinés ce matin en demi-finale face à la Croatie. Une défaite 31-28 qui envoie les Bleus en petite finale. Ce sera soit contre le Danemark, soit contre le Portugal. Les deux équipes s'affrontent demain matin à 6h30. La finale et la petite finale auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi.
Autre équipe de France, celle de tennis, qui dispute la Coupe Davis ce week-end.
Ce sera contre le Brésil, Hugo Humbert, Arthur Fils, Giovanni Empeci Pericard, Pierre Herbert, et Benjamin Bonzi partent favoris devant leur public à Orléans. Les Français jouent le premier tour de l'édition 2025 de la Coupe Davis. Le tirage au sort des matchs aura lieu ce soir à 22h pour nous. Les rencontres démarreront dans la nuit de demain à dimanche.
En métropole, on parle football avec la 20e journée de Ligue 1.
Montpellier, qui a quitté la dernière place du championnat après ses deux victoires contre Monaco et Toulouse, reçoit Lens demain matin à 6h45. Dans la nuit de demain à dimanche, Brest accueillera le PSG, Monaco affrontera Auxerre et Lille sera opposé à Saint-Étienne. Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 rencontres seront au programme. Toulouse-Nice, Angers-Le Havre, Reims-Nantes et Rennes-Strasbourg. Enfin, lundi matin à 6h45, on aura le droit à un Olympico, l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais.
Sur la scène européenne, les favoris des grands championnats seront eux aussi sur les pelouses.
En Angleterre, d'abord, pendant que Liverpool ira à Bournemouth et que Chelsea recevra West Ham, Arsenal et Manchester City s'affronteront pour tenter de suivre le rythme des leaders. En Espagne, le Real Madrid sera en Catalogne, pour défier l'Espagnol Barcelone. Et le Barça recevra Alavés pendant que l'Atlético de Madrid sera opposé à Majorque. Et puis en Italie, deux chocs à suivre ce week-end. Un derby de Milan entre l'International et les Rossoneri de l'AC Milan. Mais aussi un duel entre l'AS Rome et le Napoli.
Parlons sport de combat maintenant avec du MMA et deux Français sur la carte principale de l'UFC ce week-end.
C'est le combat qui peut tout changer pour Nassourdin Imavov, auteur d'une magnifique année 2024 avec 3 victoires sur des combattants du top 10 dans la catégorie des poids moyens. Le Français est numéro 5 de sa catégorie. Il affronte une légende du MMA, Israël Adesanya, numéro 2 et ancien champion. En cas de victoire, Nassourdin Imavov pourrait s'offrir un combat pour le titre. De son côté, Fares Ziam, deuxième Français à combattre ce week-end, combat lui chez les poids légers. Il vise une 5e victoire consécutive. Il défie l'Américain Mike Davis. L'UFC Fight Night 250 en Arabie Saoudite sera à suivre dimanche matin.
Un mot de golf également avec le tournoi à Pebble Beach en Californie.
On retrouve notamment Mathieu Pavon, le Français français sur l'un des grands tournois de la saison PGA. Après la première journée, Mathieu Pavot est 23e avec une carte de moins 4. C'est l'Américain Henley Russell qui est en tête avec une carte de 8 en dessous du par.
Du golf aux États-Unis et du golf aussi sur le territoire ce week-end.
Et oui, ce sera la Ryder Cup d'Eva 2025. Elle aura lieu dès demain et jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, c'était les journées d'entraînement pour les différents golfeurs. Elle mettra en compétition les sudistes et les broussards. Chaque équipe est composée de 10 hommes et de 10 femmes qui sont sélectionnés par les clubs de Tina et de Dumbéa pour les sudistes et par les clubs de Deva et de la Wengi pour les broussards.
Enfin, du tennis ce week-end à Nouméa avec le retour des tournois.
C'est le tennis club de l'Est 6e kilomètre qui organise un tournoi multichance de double mixte. Les premiers matchs qui se joueront demain matin dès 8h. La finale est prévue dimanche après-midi. Notez que c'est Olivier Ledin qui sera juge arbitre de ce tournoi.
Merci beaucoup Léo Fichou. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors Nicolas, on veut les détails de la météo.
Alors cette nuit, les nuages porteurs d'averses déjà présents en soirée aux Loyautés sur la pointe sud gagneront progressivement de la côte ouest et la pointe nord. La nuit sera bien étoilée sur la côte ouest. Le vent de sud-est restera fort sur le nord-est autour de 25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds. Ailleurs, il mollira progressivement entre 15 et 20 nœuds, voire entre 10 et 15 nœuds le long des côtes sur l'ouest. Les températures de la nuit seront comprises entre 21 degrés sur l'ouest et à 26 degrés sur le nord. Demain matin sur l'ouest, les éclaircies seront larges en début de matinée, puis des nuages issus de la chaîne s'inviteront progressivement. Sur les autres régions, des averses circuleront dans un ciel nuageux, plus nombreuses aux Loyautés et sur la pointe sud. Le vent de secteur sud-est sera souvent proche de 20 nœuds, localement encore 20 à 25 nœuds avec des rafales sur le nord-est.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. Je rappelle une des informations principales de ce journal. Le haut commissaire Louis Lefranc a annoncé que la route du Mont d'Or à Saint-Louis serait totalement ouverte au niveau de Saint-Louis dès le lundi 10 février 2025, soit dans un peu plus d'une semaine. Il est 18h23 et c'est la fin de cette édition.